Césure. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Césure, la deuxième de cette nouvelle saison. La mission Césure, on va vous parler de musique classique, de théâtre, sur toute la scène romande. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi toujours mon co-animateur Bastien Blanchard. Salut Bastien.
Bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, un planning assez chargé, on va vous parler d'une œuvre de Johannes Brahms et un peu du contexte de cette pré-guerre mondiale. Ensuite, nous recevrons Antoine Courvoisier et Thomas Diabol qui nous parleront du spectacle La Nef des Fous.
La Nef des Fous, oui.
Mais alors, commençons comme chaque mois par notre traditionnel agenda. Bastien, que va-t-on pouvoir voir à Genève et en Suisse romande au théâtre?
Alors, plusieurs choses pour ce mois d'octobre. Pour commencer, je vous propose de vous rendre dans le canton de Vaud, au théâtre Le CPO de Ouchy, pour aller voir La Joie des Autres par Les Productions de la Misère, texte et mise en scène de Philippe Solterman. C'est du 4 au 7 octobre, donc dès demain, avec Anne-Catherine Savoie, Franck Semlet et Camille Pillaire. Ce spectacle explore la mesquinerie et les petites jalousies sur fond de bonheur contrasté. Une sœur aînée, affairée à l'organisation du mariage de sa cadette, met face à elle deux témoins peu réjouis de célébrer l'union nuptiale de leurs meilleurs amis. Ensuite, je vous propose de retourner à Genève pour aller au Théâtre du Loup, où se jouera la pièce « Mais qui sont ces gens ?» Une création mondiale, c'est la première fois que ce sera joué, de Manon Pulvert, mis en scène par Julien Georges, une production de l'autre compagnie. Tout ceci, c'est du 5 au 21 octobre au Théâtre du Loup, donc, avec des gens formidables, un très beau casting, je vous conseille d'y aller. Puis, aussi le week-end, ça il faut en parler, le week-end du 12 au 14 octobre, Olivier, qu'est-ce qu'il y a à Genève ?
Le week-end 12 au 14 octobre, j'en ai aucune idée.
Eh bien, il y a la fête du théâtre.
Ah, voilà.
Voilà, la fête du théâtre, ce sont des ateliers, des répétitions, portes ouvertes, des spectacles, des performances, etc. D'ailleurs, les répétitions du spectacle que nous recevrons tout à l'heure avec Antoine Courvoisier et Thomas Diabol, les répétitions sont ouvertes de La Nef des Fous. Et plusieurs institutions genevoises, vous pouvez aller les voir. Vous pouvez également visiter le théâtre provisoire de Carouge. Et d'autres choses, tout le programme et toutes les informations pratiques sont sur le site fetedutheatre.ch. Et pour terminer, le jeudi 18 octobre à 19h au Point Favre à Schönbourg, vous pourrez voir ou revoir les variations énigmatiques d'Éric Emmanuel Schmitt par la compagnie Cocotte, mis en scène par Charlotte Filou. C'est le 18 à 19h au Point Favre à Schönbourg.
Parfait. Eh bien, une pièce qui a déjà tourné dans tout le canton, si je ne m'abuse, Bastien. On les a vus.
Oh là là, Perli, Satini, Chancy.
J'ai même entendu dire qu'ils joueront vers Avignon, du coup, enfin bref, une pièce genevoise, oui. Qui a sa petite vie après une création, c'est toujours chouette.
Exactement. Alors, côté musical.
Alors, j'ai une grande surprise pour tout le monde. J'ai décidé de changer un peu quelque chose. Et j'invite Bastien à faire de même pour le mois prochain. J'ai décidé de vous proposer chaque mois quelques places gratuites à des concerts, à des événements payants. Et pour ce mois-ci, j'ai deux événements particuliers. Voilà, vous pouvez, en fait, le premier qui m'écrit remporte les places. J'ai envie de dire, c'est le concours au plus rapide. Vous pouvez m'écrire sur Césure, votre émission Musique et Théâtre, sur Facebook.
Voilà, donc on écrit sur Facebook.
Voilà, sur Facebook, notre compte Facebook, Césure, votre émission Musique et Théâtre. Vous nous contactez, les premiers qui ont écrit ont les places. Et les deux premières places, c'est pour le Geneva Brass Festival, un festival... qui maintenant, depuis plusieurs années, s'est installé à Genève, et avec un programme toujours plus grand, toujours plus fou. C'est du lieu du 12 au 14 octobre, avec comme ouverture le 12 octobre à 20h, le Big Up Band, ce nouveau Big Band genevois, qui a maintenant joué avec des célébrités, qui sonne extrêmement bien. Voilà. Le 13 octobre, il y a aussi l'ensemble Agamemnon, qui fait honneur à la musique ancienne. Ça aura lieu dans la cour du musée, pas dans la cour, mais au musée d'art et d'histoire à Genève. Donc, un cadre un peu. Ah oui, dans la salle des armures. J'ai même entendu dire aujourd'hui. Dans la salle des armures, un concert de musique ancienne.
Ça, faut y aller.
Le 13 octobre, aussi à 20h, le Stockholm Chamber Brass Ensemble, l'ensemble brass de Stockholm, qui est un ensemble mondialement connu, qui a fait redécouvrir la musique brass band à travers le monde. Voilà, c'est tout un festival. Voilà, deux billets à gagner. Un moment, vous choisissez le concert, vous m'écrivez. Voilà, Geneva Brass Festival du 12 au 14 octobre. Ensuite, pour l'agenda normal, il y a les deux autres places qui sont à gagner pour le festival Gandini à l'église Grand Lancy. On avait reçu Philippe Mattet, qui était prêtre à la paroisse du Grand-Lancy et qui avait fait rénover cette orgue gigantesque à l'église Notre-Dame à Grand-Lancy. Et après le premier festival, ils en font un deuxième. Là, en l'occurrence, c'est un concert, un événement unique. Le 7 octobre, dimanche 7 octobre à 17h, un grand concert pour orgue et chœur avec l'ensemble vocal Pierre de Lune et comme organiste Diego Innocenzi, qui avait entre autres participé à la rénovation de l'orgue lui-même par ses conseils et son oreille musicale. Et voilà, des compositeurs italiens du 19e et du 20e siècle. Voilà, dimanche 7 octobre à 17h, pareil, écrivez-nous, j'ai deux places à offrir. Écrivez-nous sur la page Facebook.
Magnifique, très bonne idée.
Et ensuite, pour les concerts qui soit sont gratuits, soit seront payants, si je peux rien pour vous. Le 14 octobre à 17h, à la salle Ernest Ansermet en pleine ville, ou retransmis en direct chez nos confrères d'Espace 2, la tribune des jeunes musiciens avec le trio Eclipse, qui est un trio pour clarinette, violoncelle et piano, qui joueront les trios de Brahms, les trios de Beethoven, et une création originale tant pour l'ensemble. C'est un ensemble qui monte aussi beaucoup, ils jouent à Hagstatt, ils jouent à Lucerne, enfin voilà, des romans. Le 14 octobre à 17h, à Ernest Ansermet en live ou sur Espace 2. Et pour finir, et puis pour montrer encore les gens qu'on connaît et qui sont déjà venus dans l'émission, le 6 octobre, au Cinéma Rex d'Aubonne, il y aura la diffusion du film Le Songe du Luthier, et juste après, un concert live avec le Quatuor Ernest.
On avait eu un reportage
sur le Quatuor Ernest. Et là, ils joueront du Haydn, du Borodin et du Beethoven le 6 octobre au Cinéma Rex d'Aubonne. Alors voilà pour la musique. Je rappelle deux concours. Le premier qui est écrit a gagné pour le Geneva Brass Festival, deux places du 12 au 14 octobre. Et puis le Festival Gandini le 7 octobre à l'Orgue du Grand Lancy. Voilà. Voilà pour l'agenda, voilà pour les concerts.
Merci beaucoup Olivier, et je crois que tu as une œuvre à nous présenter.
Alors voilà, ça, exactement, ça a un lien avec un des concerts que je vous ai annoncé, mais je vous propose d'écouter peut-être un interlude musical pour
avec
commencer.
Avec plaisir.
D'Alban Berg, compositeur autrichien, compositeur même viennois du XXe siècle, interlude de son opéra Wojtek, voilà, dans l'opéra Wojtek, un interlude. Magnifique musique interprétée par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. voilà, Alban Berg, un interlude à l'intérieur de son opéra Wojtek, ici dirigé par Abado et interprété par le Philharmonique de Vienne. Alors pourquoi Alban Berg ? Parce que pour moi, c'est parfaitement personnel, mais c'est un peu le paroxysme de la musique romantique. C'est un peu voilà, tout cet art allemand, autrichien, qui part de Haydn et qui va jusqu'à... Voilà, qui va jusqu'à justement à Berg, à Schoenberg comme ça. Et voilà,
Alban Berg qui était un élève de Schoenberg.
Exactement, Alban Berg qui était un élève de Schoenberg, donc des grands compositeurs de cette qu'on a appelé en fait la deuxième école de Vienne. Et parce que la première école de Vienne était Mozart, Haydn et Beethoven. Et ensuite, on a dit plus tard que Alban Berg, Anton Webern et puis Arnold Schoenberg étaient la seconde école de Vienne. Enfin bref. La pièce que j'aimerais vous présenter n'est pas de Berg, justement, c'est pour une autre introduction. Elle est de Johannes Brahms, un autre grand compositeur germanique, du moins, allemand, autrichien à voir, mais germanique en tout cas. Il s'agit du quintet pour clarinette de Brahms. Je vous dis ça car il se trouve que je vous parlais de ce concert qui va avoir lieu sur Espace 2, puis au studio Ernest Ansermet, qui est le trio de Brahms. Donc j'ai envie de vous parler de cette œuvre un petit peu particulière et de son contexte aussi. Donc Brahms, Johannes Brahms, qui est un compositeur romantique, qui est né en 1833 et mort en 1897, il a eu la majorité de sa carrière à Vienne. Il était reconnu, connu de son vivant, voire même extrêmement célèbre de son vivant. Et c'est quelqu'un qui a été considéré longtemps comme le successeur de Beethoven. Parce que ça peut sembler maintenant un peu absurde de se dire qui était le successeur de qui, mais à l'époque, c'était leur people à eux. C'est-à-dire que les compositeurs, c'était comme Ryan à maintenant. Donc les gens se demandaient, mais de qui est issue cette personne, quelles sont ses influences, voilà, comme si on disait, est-ce que lui, il fait du rock à l'Elvis ou du blues, je ne sais pas. Donc Brahms, qui était un peu considéré comme le successeur de Beethoven, il avait un répertoire extrêmement varié qui est parti à de nombreuses symphonies, des œuvres concertantes pour instruments, des sonates, de la musique de chambre, zéro opéra, ce qui est quand même notable, hein, aucun opéra de Johannes Brahms. Et puis c'est quelqu'un qui était aussi un peu dans une jet set musicale viennoise, avec notamment en ayant côtoyé Robert Schumann, mais surtout sa femme Clara, une histoire est un peu scabreuse, mais voilà, qui a beaucoup collaboré avec Clara Schumann et avec un grand violoniste que maintenant évidemment on connaît moins, mais qui est dans le monde classique très connu, Joseph Joachim. Et voilà, donc il faisait partie de ce petit monde-là. Et puis dans ce monde-là, à l'époque, il y avait un immense débat qui était celui de est-ce qu'on est wagnérien ou anti-wagnérien. C'est-à-dire que Richard Wagner, qui est un compositeur dont maintenant on rigole beaucoup avec Richard Wagner, quand on ne sait pas, oui, voilà, après sa famille était nazie, etc. Alors, c'est très discutable, n'empêche qu'à l'époque, Wagner était quelqu'un, était une superstar, on lui a construit sa fameuse salle d'opéra.
Bayreuth.
À Bayreuth, voilà, etc. Et donc la question c'était, est-ce qu'on est wagnérien ou est-ce qu'on est anti-wagnérien ?
Et Johannes Brahms, qu'est-ce qu'il est ?
Johannes Brahms, au début, il était ni l'un ni l'autre. Voilà, lui, il avait envie de faire sa carrière, c'est un excellent pianiste, il a été notamment aussi chef d'orchestre. Et ensuite, il y avait un critique musical qui s'appelait Edward Hanslick, et qui avait une grosse, grosse influence sur le milieu, non seulement dans les milieux médiatiques, mais aussi dans le petit monde bourgeois à Vienne, et qui un jour a décrété, voilà, ce Brahms, c'est l'incarnation exactement de ce qu'on veut entendre, et qui en fait, ils ont appelé ça la musique durable.
La musique durable.
Mais d'un côté, il y avait le camp de Liszt et Wagner, qui avait été appelé comme la Zukunftsmusik, la musique d'avenir, un peu, la musique progressiste. Et de l'autre côté, voilà, Hanslick, il a dit, il y a Brahms, et d'autres auteurs qui maintenant sont un peu plus passés aux oubliettes, qui ont fond de la musique durable. C'est-à-dire que la musique qui, en fait, qui est plus moderne, mais qui est dédiée à plus vivre, entre guillemets, à plus rester dans le temps, ce qui a été totalement faux au final. Enfin, non, pour Brahms, en l'occurrence, c'est le cas, mais Wagner est tout aussi resté dans les annales que Brahms. Et du coup, il y avait cette grande querelle jusqu'au moment où le chef Hans von Bülow, qui était wagnérien et qui était un wagnérien convaincu, un ami de Wagner, ça, et s'est fait piquer sa femme par le certain Richard Wagner. Donc Cosima Bülow est devenu Cosima Wagner. Et là, il a décrété qu'en fait, sa musique n'était pas si bien que ça. Et puis que Brahms était le vrai successeur de Beethoven. Et il l'a dit publiquement, Brahms est le successeur de Beethoven. Et voilà, donc Brahms, grand compositeur, vous l'avez compris, star de son vivant. Et il nous offre, dans ces dernières années, en 1891-92, le trio de clarinette et le quintet de clarinette. C'est-à-dire qu'il avait pris une retraite, il avait décidé de ne plus composer, il s'était un peu muré dans le silence musical. Et en faisant un repas chez des amis, il rencontre un clarinettiste qui s'appelle Richard Mühlfeld, qui lui montre une sorte de flûte de berger, et avec un son complètement enchanteur, et qui montre la clarinette. Et là, Brahms se dit, il faut que je sorte de ma retraite pour écrire quelques chefs-d'œuvre encore. Et il l'a réussi alors, ce cochon. Enfin, il l'a bien fait. Non, et voilà, il a décidé de réécrire et s'est lancé simultanément dans l'écriture du quintet pour clarinette, du trio de clarinette et puis des deux sonates pour clarinette qui sont aussi jouées parfois, qui sont aussi jouées à l'alto. Et voilà, quatre chefs-d'œuvre absolus du répertoire de Brahms qui ont été composés dans ces dernières années. C'est pratiquement les dernières œuvres. Et voilà, ce trio que vous pourrez aller écouter en live. Donc, je ne vais pas vous faire la surprise de vous le diffuser maintenant, mais écouter en live à la salle Ernest-Ansermet à Genève, le 14 octobre à 17h. Je vous propose d'écouter le quintet, qui est un peu son pendant plus gros, qui est donc pour une clarinette et un quatuor à cordes. Quatuor à cordes qui comprend, comme on l'avait vu avec le quatuor Ernest, deux violons. Un violoncelle et un alto. Et voilà, ce quintet qui a quatre mouvements. Le premier Allegro qu'on va écouter, il est mélancolique, qui montre une sorte de joie un peu apaisée du Brahms vieux qui se réjouit en fait un peu de la mort et puis en même temps de décrire un peu ses dernières mémoires musicales. Et vous verrez une pièce bouleversante qui voilà, a tout de suite eu un succès. Il a joué dans un petit cadre extrêmement intime lors de la création. Ils ont fait le trio et le quintet ensemble dans la cour du duc de Meiningen. Et il y avait notamment Joseph Joachim, le célèbre violoniste, qui jouait avec lui. Donc je vous propose le premier mouvement. Allez, gros.
Sauf erreur, il y a peu de quintettes pour clarinette dans la musique classique.
Alors, il y en a. L'autre, le plus célèbre, bien sûr, avec celui de Brahms, c'est celui de Mozart. Il y a justement un parallèle entre celui de Mozart et celui de Brahms, car Mozart avait aussi écrit le quintet en écoutant un ami. Un repas, exactement la même situation, et il a écrit le quintet pour clarinette. Ensuite, évidemment, il y a d'autres compositeurs, je ne les ai pas tous en tête. Il y a notamment Max Reger, un compositeur allemand du XXe siècle, qui a écrit un très beau quintet. Mais c'est vrai que c'est une formation, voilà, qui les quelques œuvres qu'on a pour quintet, pour quatuor à cordes et clarinette, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre pour chaque compositeur. Donc là, je vous propose, voilà, ce quintet de Brahms, le premier mouvement Allegro, interprété par Sabine Meyer, une grande clarinettiste allemande actuelle qui est très célèbre, avec le quatuor Alban Berg, justement, qui est pratiquement le quatuor le plus célèbre du monde, quatuor à cordes. Sabine Meyer et le quatuor Albanberg qui nous ont interprété l'Allegro du quintet pour clarinette de Johannes Brahms. Voilà, dans une version que je trouve personnellement très bien et qui me plaît beaucoup. Mais trêve de musique, parlons maintenant de théâtre avec nos invités. Bastien Blanchard, raconte-nous.
Alors, ce mois-ci, nous recevons Antoine Courvoisier et Thomas Diebold pour nous parler d'un spectacle qui se jouera du 30 octobre au 11 novembre au théâtre de l'Alchimique à Carouge. Le spectacle s'appelle La Nef des Fous, qui est une adaptation théâtrale de la BD de Turf par Antoine Courvoisier et Thomas Diebold que nous avons aujourd'hui avec nous. Bonjour, bonsoir les
bonsoir.
Deux.
Bonjour, bonsoir.
Alors, première question, de quoi ça parle cette Nef des Fous ?
Alors, La Nef des Fous, c'est déjà, il faut le dire, une BD en 7 tomes, un peu plus maintenant. Et c'est une satire sur le pouvoir. C'est un petit microcosme qui vit sous la mer. C'est le résidu de l'humanité, on va dire. Les derniers survivants qui ignorent toutes leurs conditions, sauf un qui a été choisi pour connaître la réalité des choses. Et voilà. Et c'est lui qui est dépositaire du secret de cette nef. Et tous les autres pensent vivre à l'air libre parce que tout est très bien imité. Mais en fait, ils vivent sous une cloche sous la mer. Et donc, cette histoire, c'est l'occasion de parcourir un peu notre inconscient collectif sur les conditions d'accession et de détention du pouvoir. Voilà. C'est ça le sujet de la nef. Antoine, tu me complètes si.
Alors,
si besoin.
C'est vrai que notre obsession, quand on a travaillé sur la réécriture de cette BD, c'était surtout le pouvoir. Après, il y a évidemment.
Attends, je pense qu'on a un petit problème de micro. Non, avec
il faut juste parler proche du micro. Oui, et voilà, parce que...
Non, je disais, outre les questions du pouvoir, on est aussi passionné pour l'aspect technologique qui apparaît dans cette bande dessinée. C'est-à-dire que ce monde artificiel est géré par des machines assez autonomes pour pouvoir construire les machines qui prendront le relais. Donc ça, c'est aussi un des axes principaux de notre réécriture. C'était l'idée de l'intelligence artificielle bientôt autonome. Et ça résonne évidemment beaucoup avec la société qui va nous arriver sur la gueule bientôt.
Mais j'ai l'impression que c'est très actuel. J'ai l'impression que c'est autant au théâtre, on a beaucoup, beaucoup de pièces sur l'homme robot, la société robot, l'automatisation. Est-ce que ça vous stresse tout ça ? C'est bien, non ?
La question, c'est, pour moi, je la relie vraiment à cette notion de pouvoir personnel, pas seulement le pouvoir public, mais quelle est ma réelle capacité à être libre, en fait ? C'est peut-être même une question de liberté, au final. Est-ce que je suis vraiment libre ? Est-ce que ma quête de liberté n'est pas entravée par certaines choses ? Alors, ça peut être le pouvoir public à certains moments. Parfois, c'est bon et juste, comme la loi. Mais il peut y avoir des choses qui, insidieusement peut-être, ou plus ou moins, m'empêchent d'être vraiment libre. Voilà. Donc, je pense que la pièce pose ses... Enfin, le texte, la BD, et donc... pour nous sur scène, pose ces questions-là.
Et je complète juste par rapport à ce que disait Olivier, est-ce que c'est une bonne chose finalement que la technologie en soit arrivée à cette qualité-là ? On n'y répond pas, on ne s'offusque pas, ni on encourage ça, c'est-à-dire qu'on dépeint, on reproduit sur scène un monde où les machines gèrent tout. On montre ça aux spectateurs, et aux spectateurs de réagir.
Alors, une farce pour parler de notre monde, on en parle mieux par un biais autre que le naturalisme et la réalité.
Disons que le rire rassemble souvent, même s'il n'y a pas d'humour universel ou international. Mais c'est toujours, moi je trouve, un bon moyen de parler des sujets graves. Souvent c'est un peu redondant si on veut parler de problèmes fondamentaux avec un traitement dramatique, ça peut faire un peu lourd et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée vers des sujets qui ne sont pas du tout légers. Donc ça peut paraître comme ça une BD assez légère, en réalité pas du tout. Et je trouve que c'est un mélange qui se marie bien.
Et ces sujets graves qui nous touchent, vu qu'ils nous touchent, on en parle aussi avec notre état, notre nature, l'équipe qu'on est, les 5 comédiens qu'on est sur scène et à la mise en scène de groupe. On aime tellement déconner que ce serait absurde de tout à coup mettre ça de côté pour parler de choses qui nous parlent vraiment. il me semble. On va pas faire semblant d'être des gens sérieux ou sévères.
Ouais.
Et alors comment est né ce projet de La Nef des Fous ?
À l'école de théâtre Serge Martin, on était dans la même promotion, en 3e année, donc en 2015, on a présenté 5 minutes de travail sur une bande dessinée de notre choix. On était tombé sur La Nef des Fous à ce moment-là. Donc on a présenté cette capsule de 5 minutes qui nous avait énormément amusés. Et quand on a vu la réaction des spectateurs, on s'est dit que ce serait une bonne chose de continuer plus loin et pourquoi pas d'aboutir à un spectacle. Alors c'est Thomas qui a beaucoup été encouragé par Verena Lopez qui nous a rejoint sur le projet. Donc Thomas a fait mûrir cette idée dans sa tête et là je te laisse continuer puisque c'est toi qui est à la base du spectacle d'une heure.
J'avais envie de dire que ce qui nous a rassemblés c'était le plaisir, on pourrait dire c'est une communauté de plaisir, mais c'est vrai qu'on avait plaisir à jouer ça, plaisir à travailler cette matière et effectivement c'est Verena qui nous a rejoint, qui a dit mais faut en faire une version longue et on s'est dit pourquoi pas, on y va. Donc moi j'ai commencé à plancher là-dessus, on a fait un dossier puis ensuite on a rassembler un peu tout le monde, voilà. Et voilà comment c'est né tout ça.
Alors justement, parlons un peu de l'équipe. Vous avez parlé de Verena Lopez que nous avions reçue émission.
Elle nous avait parlé de son projet avec les jeunes qui s'appelait...
C'est la scène active, elle avait parlé de scène active. Ouais. Et de plein d'autres choses. Mais alors l'équipe, donc Verena Lopez, qui d'autre?
Alors il y a Angelo de l'Aquila qui est avec nous, issu de la promotion Gaboche de l'école Saint-Martin. Delphine Baru également. Je te laisse présenter le reste de l'équipe.
Le reste de l'équipe, alors là, on vient de vous citer les cinq personnes qui seront sur scène. Comme on est tous plus ou moins fraîchement arrivés dans ce genre d'aventure, on s'est entouré d'une équipe beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus compétente et c'est vraiment un régal de travailler avec eux.
Parce que vous êtes incompétents.
Ah, nous sommes totalement incompétents. Oh, oui. Nous, on a lancé l'idée.
Notre talent, c'est l'audace. Voilà, on va dire ça.
Alors, à la création Lumière, on a Davide Cornil. À la scénographie, c'est Freddy Porras et Cornelis Peter qui se partagent la création scénographique et la création des accessoires. Marion Schmitt et Samantha Landragin s'occupent en duo des costumes. Et l'univers sonore sera créé par Frédéric Jarabeau.
Et est-ce que tu aurais oublié de mentionner que la direction d'acteur est assurée par Johan Montpart ou j'ai eu...
Je gardais le meilleur pour la fin.
Attends pour moi.
Oui, l'œil extérieur et la direction d'acteur sont assurés par le metteur en scène Johan Montpart, que nous avons eu le plaisir de rencontrer à l'école et avec qui nous avions envie de continuer les aventures.
Œil extérieur, vous n'avez pas de personne à citer non plus de metteur en scène, c'est une création collective. Qu'est-ce que ça implique une création collective?
Alors, ce que ça implique, je ne sais pas bien. Moi, en tout cas, ce que je trouve formidable,
pourquoi avoir choisi de faire une création collective et de ne pas nommer un metteur en scène ou...
Ben, ça nous implique d'une manière assez personnelle et hors norme, je dirais, dans le projet. On est tous très concernés. On n'est pas juste des acteurs qui venons jouer. On est un peu plus que ça. Et la formule, en tout cas, avec Johan, marche très bien d'avoir un œil extérieur comme ça, très avisé. Ce qui fait qu'on est tous très, très impliqués. Au-delà du rôle d'acteur, et en même temps, on peut s'appuyer quand même sur son regard, qui déjà nous a été très précieux. Donc, c'est une formule assez détonnante, je trouve.
Très bien. Une question encore pour vous. Comment on adapte une BD au théâtre? Vous qui avez écrit l'adaptation, Antoine et
Thomas. On savait.
Yo, c'est passé par de nombreuses étapes. On a mis quoi, 2 ans?
Ouais.
Ouais,
ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Ouais, ouais.
C'est vrai qu'on a tous en tête cette version de Tintin de Frédéric Pollier, un peu pour peut-être que les gens
c'était
ont
pas,
vu.
C'était pas
enfin,
de
du moins,
Pollier.
Lui, il jouait dedans. Non.
Non, la version du regretté Dominique Caton.
Voilà.
Avec Jean Lhermier. Oui, c'était pas Frédéric Pollier, c'était Jean Lhermier. Oui, exactement. Alors, c'est-à-dire que Les Bijoux de la Castafiore, c'était un tome et plus ou moins un huis clos. C'est-à-dire que il y avait une certaine clarté, j'imagine, dans le choix de cette bande dessinée de Tintin là, parce qu'elle se passe dans des espaces plus ou moins semblables. Donc, on peut l'imaginer sous forme de pièce de théâtre déjà à la base. Nous, on s'amusait à choisir la bande dessinée la plus complexe, déboussolante et foisonnante possible. Et c'est là qu'on a eu de la peine. Alors, ce qu'on a fait en tout premier, c'est qu'on a simplement retranscrit mot par mot tous les dialogues.
Des combien de tomes? 7?
On a pris 7 tomes.
C'était des centaines de pages de dialogues.
Ouais.
Ensuite, on s'est penché sur les planches qui visuellement nous intéressaient le plus. Donc, on a vite écarté celles où il s'agissait surtout du dialogue pour nous. Et on a gardé bien en mémoire celles dont les dessins allaient nous inspirer pour la scène. Il restait quand même des centaines de pages de dialogue, donc on a enlevé tout un pan de l'histoire qui se passe donc dans le monde post-apocalyptique de la surface de la Terre. Tout ça, ça a disparu. Donc on se concentre vraiment à ce qui se passe sous l'eau. Il restait encore des centaines de pages, donc on a enlevé plusieurs intrigues, malheureusement. Toujours à contre-cœur. Mais pour finir, on est arrivé à une centaine ou 80 pages, ce qui était encore trop, mais il s'agissait plus que de quelques réagencements, rassembler des scènes, enlever certains dialogues, et surtout, ce qui nous a sauvés au bout du compte, et ce qui nous motive maintenant, qui rajoute une couche supplémentaire au spectacle, c'est qu'il y a toute une phase narrative. Ça veut dire qu'au début, à la fin, et quelquefois pendant le déroulement de la fiction, on sort des personnages, on se déshabille, on n'est pas à poil, on est simplement en tenue d'acteur, et on raconte ce qui s'y passe. On raconte avec notre point de vue à nous, notre langage à nous, et c'est ça qui nous a permis aussi de faire avancer l'histoire sans trop de complications.
Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû essentialiser, choisir vraiment les points importants de l'histoire, et si on devait raconter en quelques phrases, qu'est-ce qu'on dirait ? Et c'est comme ça qu'on a choisi ce qu'on allait garder, et puis à partir de ça, ça a été un peu notre ossature. On a redéveloppé, effectivement, ce faisant, on a enlevé des pans entiers de l'histoire. Et on a la version qu'on est, sur laquelle on travaille maintenant est encore une essentialisation à partir de ce qu'on avait déjà. Et puis cette solution de la narration est arrivée très tard dans le processus, notamment suite à un retour de Johan. Et ça nous a bien aidé à savoir voilà, où est-ce qu'on commence l'histoire. L'histoire de la nef telle qu'on l'a choisie, elle commence à un point, mais nous, est-ce qu'on est obligé de commencer là ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? Et c'est comme ça que ça s'est, voilà, que ça s'est fait.
Très bien. Encore quelques secondes, quelques minutes pour nous donner envie d'y aller. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui nous écoutent pour leur donner envie d'aller vous voir du 30 octobre au 11 novembre au Théâtre de l'Alchimie à Carouge ?
Je dirais parce que c'est pas un spectacle normal. Je suis pas sûr que c'est un spectacle qu'on ait l'habitude de voir en tant que spectateur à Genève. Autant dans le langage que dans l'esthétique, que dans les voix, dans les costumes, tout est loufoque, burlesque et haut en couleur dans la bande dessinée et on essaye d'être le plus fidèle possible à ça. Donc ça donne quelque chose, j'espère, inhabituel.
Moi, ça m'intéresse, comme je suis musicien, moi dans le milieu, est-ce que comment on imite un trait de dessin, de crayon, comment est-ce qu'on a une manière de faire, comment on fait ça? Je sais pas, j'ai pas vu la BD pour être honnête, je sais pas à quoi elle ressemble, mais j'ai vu beaucoup de BD pour adultes. Enfin, il y a des histoires pour adultes.
On apprend des choses, on saura tout. Non, mais c'est une bonne question, effectivement. Après, il y a une énergie qui se dégage au-delà du trait uniquement. Il y a, en tout cas, quand on ouvre un n'importe quel tome de la nef, il y a une énergie très forte qui se dégage, assez précise. Et c'est ça qu'on a essayé de retranscrire, soit par le jeu, soit par la tenue des costumes, soit par la scénographie. Mais voilà, c'est un peu là-dessus qu'on s'est penché. C'est foisonnant. Il y a mille solutions de traitement de la réalité dans cette BD, si ça exprime clairement les choses. Et du coup, il y a foison, quoi. On peut choisir vraiment tout ce qu'on solutionne sur scène. Et donc, voilà. Mais c'est beaucoup dans le, je dirais, dans le, moi je dis comme ça, dans la dynamique des corps. On a cherché à traduire ça. Tu me corriges si je dis.
Non, tout
si
à fait.
J'oublie des choses.
Mais surtout qu'un dessin ne peut pas être décontracté. Quand un dessinateur de BD dessine quelqu'un, même fatigué, même relaxé, il marquera ce trait par une position appuyée, c'est assez expressif, expressionniste. Donc c'est pareil pour la gestuelle sur scène. Mmh. C'est-à-dire que tout doit être dessiné, tout doit avoir un style, rien peut être banalisé.
Et puis, petite question, a priori, j'ai envie de dire que c'est un spectacle qui n'est pas pour les enfants, ou pas spécialement pour les enfants.
Non, ça fait partie de ces histoires qui ont plusieurs couches de lecture. Donc c'est totalement familial, tout public. Les enfants verront pas la même chose que leurs parents, c'est juste ça. Ouais. Mais alors à la question pourquoi il faut venir, si on a envie de rire et que on a envie parfois de se poser des questions et se dire c'est un aspect que j'avais laissé de côté ces temps-ci. Et ben c'est l'occasion de venir à l'Alchimique et de voir des jeunes comédiens qui sont à fond dans ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut dire ça? Et qui aiment ce qu'ils font sur scène, donc prendre du plaisir avec nous. Voilà, je crois que c'est ça. On a envie de partager le plaisir qu'on a eu à monter ce spectacle avec les gens qui viendront nous voir.
Alors, on va venir vous voir pour avoir le même plaisir que vous. Je rappelle les dates du 30 octobre au 11 novembre au Théâtre de l'Alchimique à Carouge. Une production de Neuil, la petite compagnie. C'est juste. Avec tous ces gens qu'on a cités, que je ne vais pas reciter parce que je vais en oublier. Et je vous propose une petite, petit moment musical avant de revenir avec notre invité. Je vous propose d'écouter Peer Gynt, un extrait de Peer Gynt écrit, composé par Grieg pour un spectacle du même nom de Henrik Ibsen. Voilà, et on se retrouve juste après avec notre invité Antoine Courvoisier. Retour dans les studios de Radio La Fabrique, où nous sommes avec un invité qui n'a même pas quitté son siège, Antoine Courvoisier.
Mais bonjour.
Mais alors, comment ça va?
Eh ben, dis donc.
Attends, mais déjà, on remercie Thomas, qui est quand même... Qu'on a...
Thomas Diabol, oui, qui est venu nous parler de la Nef des Fouilles, qui est encore assis au fond du studio.
Merci Thomas.
Thomas, qui me chatouille discrètement.
Alors, Antoine Courvoisier, parlons un petit peu de toi, si tu veux bien, pour la fin de cette émission. Donc... jeune voix, 23 ans, présente-toi, ce sera plus simple.
Alors, je m'appelle Antoine, je suis jeune voix et j'ai 23 ans. Je suis comédien depuis 2 ans. J'ai fait ma formation à l'école de théâtre Serge Martin, comme toute l'équipe qu'on a citée tout à l'heure, c'est dans la Nef des Fous, de 2013 à 2016. Voilà, donc ça fait 2 ans que je suis comédien à Genève et j'ai aussi... accessoirement étudier le piano au Conservatoire Populaire, ce qui fait que j'aime la musique aussi, j'en pratique un peu, mais je suis surtout comédien.
Alors justement, commençons par là, tu pratiques la musique, elle a quelle place cette musique dans ta vie ou dans ton travail aussi de comédien, bêtement?
Alors dans ma vie, j'en joue, j'aime chanter, accompagner des chansons, jouer tout seul, travailler toutes sortes de morceaux, mais c'est de l'ordre du hobby. La place qu'elle a sur scène, ça m'est arrivé d'écrire un tout petit peu quelques lignes musicales pour certains spectacles, mais ça commence à dater. Je veux dire que la musique a pris une autre place depuis un an. C'est-à-dire que je travaille maintenant en collaboration avec des ensembles musicaux, des petits ensembles symphoniques, par exemple, en tant que lecteur.
Des petits ensembles symphoniques.
Ah, petit. Non, je veux dire le.
On parle de. Des petits ensembles symphoniques, on parle quand même de l'OSR, je veux dire.
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que j'ai dit petit. Non, c'est vrai que. Alors, hier encore, je jouais avec la compagnie Rossignol, qui est constituée de solistes de l'OSR. Donc c'est très enrichissant de travailler avec des musiciens de cette trempe-là, en étant tour à tour narrateur, un peu chanteur, un peu interprète quand il s'agit de jouer des personnages. Enfin, c'est un travail passionnant et toujours en accord avec la musique. Donc ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, où j'aime justement faire profiter mon travail de comédien de la formation musicale que j'ai eue accessoirement.
D'accord, merci. Très vite, après la sortie de l'école, tu as travaillé avec des noms assez importants, on va dire, dans le paysage théâtral genevois.
Tout à fait, pour Woody Allen.
Pour ne citer que Evelyne Castellino, Joanne Mompard, Dorian Rossel récemment aussi, Dominique Caton aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment on passe de l'école Serge Martin à tout d'un coup ces grands noms, ces grandes scènes aussi, je crois, que la tournée que Dorian Rossel, que Thomas a su également, du dernier métro, tout d'un coup c'est des grandes salles, des grandes tournées. Le changement est facile, comment ça se passe?
Alors, c'est un changement qui est a priori assez facile et que j'aime
sauter
bien.
Sauter dans le monde professionnel, en fait.
Je dois dire paradoxalement que je suis content d'avoir la chance de jouer dans des lieux peut-être d'une certaine importance juste après avoir fini l'école. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai attendu pendant 20 ans de ma vie. Et c'est pas comme un rêve qui se réaliserait. C'est-à-dire que je suis encore dans ma tête en train d'apprendre. Je suis encore, en finissant l'école que je suis confirmé. Donc, j'y vais dans l'envie d'apprendre. Donc, c'est difficile d'attraper la grosse tête vite. C'est pas parce que je travaille avec des gens qui ont un nom ou des salles qui ont une importance que je vais en faire une fierté. Je suis encore tout jeune.
Très bien.
mais est-ce qu'il reste des rêves après ça? J'ai envie de dire, quand on commence si fort, si jeune,
Woody Allen.
À 25 ans, je veux dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a de mieux après?
Ah bah.
La nef des fous.
La nef des fous.
Il faut répondre.
C'est ça. Non, à part ça, c'est pas faux. Parce que les expériences en collectif sont énormément nourries parce que j'apprends justement avec des metteurs en scène qui ont beaucoup plus d'expérience. C'est-à-dire que c'est un savoir qui se récupère directement, enfin qui inspire directement le travail personnel.
C'est ça, parce que d'un côté, il y a tous ces grands noms. Il y a aussi la nef des fous. On parlera juste après, rapidement, de la compagnie Moquette. Il y a également la compagnie Cocotte, dont j'ai parlé dans l'agenda pour présenter le prochain spectacle, Variation énigmatique.
Tout à fait, Bastien.
À Chênebourg,
au Point Favre.
Voilà, exactement, pardon. Et Antoine, sachant que c'est aussi une émission de musique, on t'a demandé de nous amener un petit morceau. Alors, quel est-il?
Alors, j'ai eu envie de faire partager avec les auditeurs le passe-pied de la suite bergamasque de Debussy, mais interprété par un trio de jazz mené par le pianiste Enrico Pieranunzi.
Alors, on peut écouter ça.
Thank you.
Voilà, merci Antoine de nous avoir amené ce morceau.
Merci.
Parlons un petit peu, comme je le disais juste avant, de la compagnie Moquette. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compagnie Moquette ?
La compagnie Moquette, c'est Delphine Baru, Cléa Eden, Angelo Dell'Aquila et moi-même, qui, à l'époque, on était les quatre à l'école, avions l'envie de créer une compagnie. On était en deuxième année, et on était même en première année, non ? Et en parallèle des cours, on sortait de l'école et on préparait notre premier spectacle, qui était un assemblage de textes, de chansons, de choses écrites en groupe. C'était au Saltimbanque, une place dans ton frigo. C'était un peu un ovni, quelque chose une expérience de débutant qui s'est très bien passée. Et ensuite, on a fondé justement, à la suite de ça, cette compagnie Moquette, qui est une compagnie qui fonctionne vraiment en collectif. Même si quelqu'un, des fois, prend le rôle de metteur en scène, c'est avec l'accord de tout le monde, la collaboration de tout le monde. On a créé Four Hero en 2017, qui parlait du point de vue des enfants des guilds, notamment les guilds de 1945 et des années 2010. Ensuite, Delphine Baru et Cléa Eden ont créé aussi leur spectacle très récent,
oui,
sur mai 68.
On en a parlé dans l'agenda le mois passé. Sauf
à... Tout à fait. Le prochain spectacle aura lieu en fin mai 2019, de nouveau au Saltimbanque, aux Grottes. Ça s'appellera Du cul, du cul, du cul.
Alors parlons un petit peu de ce spectacle, Du cul.
C'est un spectacle qui parle du
ça
cul,
parle de
du
quoi
cul, du cul, du cul. Une écriture collective mise en scène par Charlotte Filou, qui nous rejoindra, qui a également travaillé avec la compagnie Cocotte, qui a une carrière de plus de 10 ans à Paris. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. C'est un spectacle qui parlera de sexualité. Il est en cours d'écriture. Je ne peux pas vous en dire plus sur le moment. C'est-à-dire que ça parlera de nos ressentis, de nos expériences, de nos questionnements par rapport à ce thème du cul.
Bon, on en reparlera au moment venu.
Tout à fait.
Très bien. Et alors, la suite, les projets à venir pour toi, Antoine Courvoisier, quels sont-ils ?
Alors, dans l'immédiat,
on a de
la
nouvelles choses.
Des fous. Ensuite, il y a un travail au Théâtre des Amis, fraîchement repris par Françoise Courvoisier.
Quel heureux hasard.
Oui, exactement. Alors, je sais pas comment ça se fait.
Ah oui, pistonné dans le métier en plus.
Ah, c'est facile. Moi, ça me dégoûte. Mais c'est la petite mafia du théâtre.
Oh, c'est polémique. Là, moi, ça m'énerve. Moi, je quitte le plateau. Non, écoutez, oui. Alors, Françoise Courvoisier, elle a beau être de ma famille d'une manière plus ou moins éloignée. Je l'ai rencontrée récemment. Je sais, oui, mais je tiens à le dire parce que je ne suis pas pistonné. Je suis tout simplement très talentueux. on va jouer en duo avec Charlotte Filou, justement.
Charlotte Filou,
qui est ma compagne dans la vie, ce qui fait que
Bon, si tout le monde couche ensemble. Non, si tout le monde couche ensemble.
C'est friture et compagnie par ici. Alors, Françoise Courvoisier nous mettra en scène, Charlotte et moi, dans un texte de Guy Foissy en janvier aux Amis. Et ensuite, alors, une tournée avec Les Séparables, le texte de Fabrice Melchiot qui a été monté l'année dernière par Dominique Caton et Christiane Sutter.
Qui avait un très beau succès d'ailleurs.
Un très beau succès qui va continuer. Il y a tout juste une semaine, Dominique Caton disparaissait. Donc c'est évidemment, ça va être une expérience très forte. C'est-à-dire que ce spectacle est son dernier spectacle et il continuera sans lui. Donc ce sera en décembre au Théâtre de Vidi, puis une tournée dans d'autres villes. Voilà, ce sera quelque chose de, je pense, de fort à ne pas rater.
Et oui, allez le voir, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est un super spectacle. Deux comédiens en plus sur le plateau. Vraiment super. Courez-y. On en reparlera aussi également. On arrive au terme de notre émission. Ça y est, il y a quelque chose qui bip.
Ouais, c'est ma pizza.
Voilà, on s'excuse pour les quelques petits problèmes techniques qu'on a eus, mais on a quelques petits soucis dans les studios de la fabrique avec l'enregistrement des émissions. Quoi qu'il en soit, on se retrouve, nous,
absolument.
Le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain, Fidèle au Poste, le premier mercredi à 20h. Je rappelle vite le jeu concours. Hein, les places à gagner, écrivez-nous pour le Geneva Brass Festival et puis le concert du Festival Gandini. Mais merci Antoine Courvoisier d'être venu. Merci Thomas.
Antoine.
Je vous souhaite tout de bon aux deux.
Merci à vous deux et à tout bientôt.
À tout bientôt.